Chapitre 9. Meurtrier ou médecin. Nous ne sommes pas complices. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? Le raisonnement que Jésus applique est surprenant. Il ne semble pas croire un seul instant au louable raisonnement des maîtres de la loi, mais ne retient que l'héritage terrible qu'ils propagent. Une fois encore, leurs actions présentes discréditent leur discours, et ce ne sont ni la construction de tombeaux, ni sa décoration qui le démentent. Avant d'approfondir ce thème, je pensais que l'esprit religieux était, il est vrai, pesant et parfois accablant, mais qu'il y avait toujours eu des gens qui en étaient animés, et que cela n'était pas si grave. Cependant, comme chacun, j'ai dû constater qu'une bonne partie de l'information quotidienne qui nous revient est monopolisée par les menaces et les meurtres qui découlent de l'esprit religieux. Ce dernier, quelle que soit la couleur de son camouflage, n'a cessé d'engendrer persécution et mort à travers le monde, siècle après siècle. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et de vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns, vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. Matthieu 23, verset 34, Marc 14, verset 1. Dans ce domaine, la neutralité n'existe pas. Jésus ajoute à l'encontre de ceux qui agissent ainsi, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Jean 8, verset 44. Le serpent ancien poursuit son œuvre mortelle et mensongère par ceux qui l'écoutent et font sa volonté. À son époque, le prophète Ésaïe dénonçait déjà cet état de fait avec force. « Vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crime, et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir. Vous portez en vous le désir de nuire et n'accouchez que du malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quiconque y toucherait en mourrait aussitôt. Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer de la violence. Vous courez à toutes jambes pour faire le mal. Vous vous précipitez pour assassiner l'innocent. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Quiconque emprunte vos chemins ne connaîtra jamais la paix. » Ésaïe 59, verset 3 et verset 5 à 8. Comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? Un prédicateur a dit, « Depuis 1967, on a décidé que l'enfer n'existait plus. Depuis 1976, on n'en parle même plus. Et depuis 1983, quand quelqu'un en parle, on essaye de le censurer. » L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, mais pour Satan et ses anges. Dieu, le cœur rempli d'une grande tristesse, ne peut obliger les hommes à venir à lui contre leur gré. Il y aura ainsi un lieu dans l'univers où Dieu retirera sa présence et où seront ceux qui n'ont pas voulu de lui. Nous pouvons faire un colloque, ou même un concile, pour décider que seuls les benêts moyenâgeux croiront désormais encore à l'enfer. Cela n'y changera rien. Jésus interroge solennellement ces hommes face à face. « Comment y échapperez-vous après ce que vous avez fait ?» Prenez une concordance biblique et vérifiez par vous-même. C'est le Christ en personne qui nous met le plus en garde sur ce sujet. Il emploie différents termes similaires pour décrire cet endroit de perdition, tel qu'abîme de ténèbres, ruines, lieux de tourments, peines éternelles. Comme quelqu'un l'a relevé, il vaut bien mieux pouvoir dire « Je crois à l'enfer, mais j'ai la certitude de ne pas être damné » que de dire « Je sais que je n'irai pas en enfer parce que je ne crois pas à l'existence d'un lieu de ce genre. » Prétendre que l'enfer n'existe pas en espérant ainsi y échapper revient à penser qu'il suffirait à un condamné de ne pas croire à la prison pour ne pas y être jeté. Quand un homme choisit le chemin de la perdition, il fait pleurer Dieu. C'est contre sa volonté que certains se retrouveront dans cet horrible endroit. Le séjour des morts, dont nous parle Jésus dans le récit du riche et de Lazare, n'en est que l'antichambre. L'homme qui s'y retrouve nous laisse un message un peu plus clair. Ne viens pas dans ce lieu de tourment. Luc 16, versets 19 à 31. Nous lisons dans l'évangile de Luc. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont rejeté ce que Dieu voulait pour eux et ont refusé de se faire baptiser par Jean. Luc 7, verset 30. Dieu avait donc un plan pour leur pardonner. Il voulait les sauver. Si la plupart l'ont refusé, ils en portent l'entière responsabilité. N'y a-t-il plus aucun espoir pour les pharisiens de tous les temps? C'est précisément pour les arracher à leur aveuglement que Jésus les reprend avec une telle virulence. Lui, l'homme spirituel par excellence, accepte la souffrance et la mort pour sauver l'homme religieux. Il met ainsi le comble à son amour. C'est ce qui lui permet de parler si fort. Seul ce langage peut encore secouer ses adversaires à salut, car c'est bien leur salut que Christ recherche. Nous arrivons ainsi au sommet du paradoxe. L'homme religieux vit dans le péché, mais se croit saint. L'homme spirituel est saint, mais ses adversaires l'accusent de blasphème. L'homme religieux haïra l'homme spirituel au point de le mettre à mort. L'homme spirituel aimera l'homme religieux au point de donner sa vie pour lui. Par sa mort volontaire, Jésus rendra le salut des pharisiens de toutes les époques possibles comme celui de chaque être humain. Et certains d'entre eux se laisseront convaincre. Quelques pharisiens disaient « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres répliquaient « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître. » Cependant, parmi les chefs religieux eux-mêmes, beaucoup crurent en Jésus. Jésus leur dit alors « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Son désir le plus grand est que chacun réponde à son appel et marche sur ses traces. » Nous lisons encore ce témoignage réjouissant à l'époque de l'Église naissante. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Jean 9, verset 16. Luc 20, verset 39. Jean 12, verset 42. Matthieu 13, verset 52. Acte 6, verset 7. La fin du règne de la mort. Le combat entre la vie et la mort, la sainteté et le péché, le mensonge et la vérité, la droiture et l'hypocrisie se poursuit à travers les siècles. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort elle-même. Viendront ensuite, et pour l'éternité, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, le bonheur de vivre aux côtés du prince de la vie. Pour l'instant, le combat n'est pas achevé, et chacun doit choisir son camp. Le morbide et le glorieux se côtoient, et malheureusement, le glorieux est parfois voilé à nos yeux, et le morbide s'habille de fête. Discerner n'est pas chose aisée, et j'espère que ces lignes vous seront profitables. Pour illustrer, parmi tant de domaines actuels, la lutte invisible qui a lieu, je vous livre une réflexion que j'ai écrite à un grand quotidien au sujet de la fête de Halloween. Ces lignes, à l'exception du post-scriptum, ont été publiées à plus de 100 000 exemplaires. Monsieur le rédacteur, Halloween approche à grand renfort de pub. J'aimerais réagir. Vous me ferez grand plaisir en acceptant de nourrir le débat en publiant ma lettre. Halloween, on rit jaune. Vous venez de recevoir, comme moi, la panoplie complète à disposition pour une fête torride où tout est permis. Halloween. Vous connaissez, bien sûr. Pour les attardés, précisons que c'est une fête celte organisée en l'honneur du dieu de la mort. Le prospectus précise qu'autrefois, entendre en 1993, cette coutume n'était pas célébrée en Suisse, alors qu'elle semble devenir une fête incontournable. Vous avez ensuite un choix super marrant de bougies cercueil, couteaux de boucher, diablesse, masque d'horreur, masque avec pompe pour faire couler le sang, gel de sang épais, tube de sang, changeur de voix et autres cornes de diable. La coutume suggère qu'en se confondant ainsi avec les démons, l'on aurait la vie sauve. Bien entendu, nous sommes intelligents, tolérants, ouverts et pleins d'humour. Nous sommes certains que les démons n'existent pas, que les satanistes et autres adeptes de sectes obscures ne sont que de guélurons. Nos enfants peuvent donc passer de longues heures devant divers écrans où le sang gicle et les morts s'alignent. Sortir ensuite pour défiler dans nos rues, maîtresse en tête, déguisée en démon, actionner la pompe à sang épais et brandir un couteau de boucher. Le lendemain, ils seront doux, tolérants et attentifs, et, à l'avenir, des citoyens éclairés. Vraiment, Halloween, c'est à se tordre de rire. Attention, si vous n'avez pas le sens de l'humour et que vous ne riez pas avec les autres moutons, on risque de ne plus vous tolérer. Post-scriptum. Pourrions-nous nous marrer encore plus en créant une fête en l'honneur de la mafia et une autre en l'honneur des terroristes? Recevez, monsieur le rédacteur, mes meilleures salutations et remerciements. La victoire du règne de la vie. Luc, dans son évangile, nous décrit deux cortèges. L'un, funèbre, est composé de tout un village qui emmène au cimetière le fils unique d'une veuve au comble de la tristesse. L'autre est formé d'une foule joyeuse, avec à sa tête le prince de la vie et ses disciples. Les deux cortèges se rencontrent. C'est une confrontation spirituelle. La mort et la vie entrent en collision. Jésus adresse à la veuve un message surréaliste. Ne pleure pas. Sans le miracle, cette parole serait ridicule, blessante. Mais Jésus s'avance, et tous le cercueillent. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redresse alors et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Conformément à Luc 7, versets 11 à 16. Aujourd'hui, Dieu a peut-être utilisé ces simples lignes pour vous bousculer. Si la religiosité étouffait votre spiritualité, elle a été secouée. La collision l'a fait chanceler. Elle est, je l'espère, tombée à terre, mais pas vous. Car Jésus n'a pas rencontré cette veuve à nouveau endeuillée pour l'écraser davantage, mais pour essuyer ses larmes, pour guérir sa peine insupportable, pour illuminer son visage et sa vie, pour la transformer à jamais. Réflexion personnelle en résumé du livre. À l'instar de l'ange qui analysa la motivation du serviteur de Dieu, je vous invite à réfléchir aux divers points soulevés. L'Écriture nous dit, « Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. » 1 Corinthiens 11, verset 31. Le but de cette démarche n'est ni de se dénigrer, ni de se flatter, mais bien de tendre à ressembler à Christ en cultivant une amitié avec lui. Si cela vous aide, vous pouvez vous attribuer une appréciation avec ou sans l'aide d'une personne qui vous est proche. 1. Théoricien ou praticien? Je fais ce que je dis. 2. Oppresseur ou serviteur? Comment mon entourage me perçoit-il? 3. Star ou adorateur? Est-ce que j'attire les regards sur moi ou sur Christ? 4. Escroc ou bienfaiteur? Ma position sert-elle à manipuler ou à servir? 5. Séducteur ou ambassadeur? Auquel des deux ma stratégie d'influence s'identifie-t-elle le plus? 6. Confus ou convaincu? Ma foi est-elle cohérente ou déséquilibrée? 7. Légaliste ou clairvoyant? Est-ce que je cajole le secondaire ou vis les dimensions de l'esprit? 8. Infecté ou purifié? Est-ce que je recherche les apparences ou la transparence? 9. Meurtrier ou médecin? Face à mes adversaires, quel est mon souhait dominant? Leur mort ou leur salut?